Chant 33e. L'or arrachant sa lèvre à l'horrible pâture, ce damné l'essuya contre la chevelure du crâne que derrière il venait de ronger. Ensuite il commença. Tu veux donc que j'attise l'effroyable douleur lorsque mon cœur se brise, même avant de parler, seulement d'y songer. Pourtant, si mon récit doit semence ennemie au traître que je ronge apporter l'infamie, tu me verras parler, pleurer à la fois. Je ne sais pas ton nom, ni par quelle puissance tu viens jusqu'ici-bas, mais ta ville est Florence, je crois le deviner à l'accent de ta voix. C'est le comte Ugolin, si tu veux me connaître, que tu vois, et Roger l'archevêque et ce traître. Je suis un dur voisin, oui, mais apprends pourquoi. Que ce fut à l'effet de son lâche artifice, en me fiant à lui, que j'ai dû mon supplice, ma prison et ma mort, tu le sais comme moi. Mais ce que tu ne peux pas avoir appris sans doute, c'est combien cette mort fut atroce. Or, écoute, et tu pourras juger ce qu'il m'a fait souffrir. Par les trois soupirails de la prison obscure, dite tour de la fin du nom de ma torture, et qui doit après moi pour d'autres se rouvrir, la lune avait brillé plusieurs fois tout entière, quand un rêve effrayant, comme un trait de lumière, déchira de mon sort les voiles bienfaisants. Devant cet homme-là, fier seigneur en campagne, un loup et ses petits fuyaient vers la montagne, qui par Luc est caché au regard des pisans. Avec de maigres chiens, meute avide et flanquée, en avant et de front sur la bête traquée, Galandi, Sismondi, l'affranchi s'élançait. Après quelques instants de course dans la plaine, le loup et ses petits me semblaient hors d'haleine, et les crocs des grands chiens dans leurs flancs s'enfonçaient. Quand je me réveillai longtemps avant l'aurore, j'entendis près de moi mes fils dormant encore, qui demandaient du pain et gémissaient tout bas. Bien cruel est ton cœur s'il ne saigne d'avance à ce qui s'annonçait pour le mien de souffrance. Et de quoi pleures-tu si tu ne pleures pas? Il s'éveille, et l'heure est déjà sonnée, où l'on nous apportait le pain de la journée. Et tous, se rappelant le rêve, étaient tremblants, et jouis sous mes pieds qu'on verrouillait la porte de cette horrible tour où l'espérance est morte, et sans dire un seul mot, regardez mes enfants. Je ne pleurais pas, moi. Je devenais de pierre, eux pleuraient, mon petit Anselme me dit. Père, quel étrange regard tu nous jettes, qu'as-tu? Je demeurais sans pleurs, mes yeux ne pouvaient fondre. Tout ce jour et la nuit je restais sans répondre, jusqu'à ce qu'un nouveau soleil eût reparu. Quand un faible rayon filtrant dans notre cage me fit voir la pâleur de mon propre visage, sur quatre fronts d'enfants tout blêmis par la faim, je me mordis les mains dans un accès de rage, croyant que de la faim c'était l'horrible ouvrage, ces malheureux enfants de se lever soudain et de dire « Bien moins nous souffrirons, mon père, si tu manges de nous. De ces chairs de misère tu nous as revêtus, tu nous les reprendras. » Je me calmai de peur d'accroître leur souffrance. Ce jour et le suivant, nous gardions le silence. Terre dure, ah, pourquoi ne t'entr'ouvris-tu pas? Au quatrième jour, sans force contre terre, Gadou tombe à mes pieds en murmurant. Mon père, tu ne viendras donc pas au secours de ton fils? Il meurt, et comme ici tu me vois, j'ai de même vu de mes yeux tomber de ce jour au sixième, les trois l'un après l'autre, et puis plus rien ne vit. Sur leur corps à tâtons je me traîne et chancelle, ils sont morts, et trois jours encore je les appelle, la faim fut plus puissante alors que la douleur. Quand il eut achevé, roulant un œil farouche, le forcené reprit le crâne dans sa bouche et fouilla jusqu'à l'os comme un chien en fureur. Ah, pise déshonneur de la belle patrie où résonne le si, de ton ignominie, puisqu'ils sont tes voisins si lents à te punir, puissent marcher ensemble et gorgone et caprée, qu'aux bouches de l'Arnaud leur masse conjurée le fasse refluer sur toi pour t'engloutir. Si du comte Hugolin les trames criminelles avaient, comme on l'a dit, livré tes citadelles, pourquoi vouer ses fils à ce supplice affreux? Du Gaussion, de Brigat, l'âge d'innocent et tendre, Thèbes nouvelle, eût dû suffire à les défendre, et ces deux qu'en mes vers j'ai nommés avant eux. Nous marchâmes alors plus avant, où la glace dans ses rudes liens enserre une autre race. Les têtes en arrière ici se renversaient. Les pleurs même arrêtaient, les pleurs près de descendre. La douleur par les yeux ne pouvait se répandre, retomber sur le cœur et les tourments croissaient. Les premiers pleurs s'étaient gelés dans la paupière et, remplissant de l'œil la coupe tout entière, l'avaient comme couvert d'un voile de cristal. Et de l'âpre froidure, encore que l'outrage, eut comme d'un calus endurci mon visage, déjà presque insensible à cet air glacial. D'une brise pourtant je crus sentir l'atteinte. Toute vapeur ici n'est-elle pas éteinte? Maître, dis-je, apprends-moi qui nous souffle ce vent. Et le maître me dit, tantôt tu vas l'apprendre. Tes yeux te répondront où nous allons descendre, et toi-même en verras la cause en arrivant. Alors un affligé des glaces éternelles cria vers nous. Ô vous, ombre assez cruelle, pour avoir cette place aux suprêmes douleurs, de grâce, arrachez-moi le voile insurmontable, pour que j'épanche un peu la douleur qui m'accable, avant que de nouveau gèle mes tristes pleurs. Je lui dis, si tu veux qu'à ton désir j'accède, apprends-moi ton histoire, et si ma main ne t'aide, au fond de ce glacier, je consens à plonger. Il répond, je suis frère Albéric. Pour ma perte, j'ai d'un mauvais jardin fait manger la desserte. Date pour figue, ici je paye mon verger. Quoi ? Dis-je, es-tu donc mort, et quel est ce mystère ? Il repartit. L'état de mon corps sur la terre est un secret qu'ici je n'ai pas apporté. C'est le lot de ce cercle, appelé Ptolémée, que souvent l'âme y tombe à jamais abîmée, bien avant que son corps y soit précipité. Et pour que mieux ta main propice me soulage de ce cristal de pleurs glacé sur mon visage, apprends que dès qu'une âme a sur terre trahi, ainsi que je l'ai fait, au corps dont il a la chasse, un démon s'établit et gouverne à sa place, jusqu'à ce que le cours de ses jours soit rempli. L'âme tombe en ce puits glacé qui la dévore, et peut-être le corps là-haut se voit encore de l'ombre qui grelotte ici derrière moi. Si tu viens d'arriver, tu dois bien le connaître, c'est Messire Doria, depuis longtemps le traître, et dans ses fers glacés serrés comme tu vois. « Je crois, dis-je à l'esprit, que de moi tu veux rire, car Branca Doria n'est pas mort. Il respire, il mange, il boit, il dort, il revêt des habits. » « On n'avait pas encore vu venir Michel Sanche, répliqua-t-il, au bol affreux de mâles branches, où boule à poix, tenace alentour des maudits, qu'un diable était entré dans son corps à sa place, et dans le corps aussi d'un autre de sa race. » Qui fut traître en prêtant au traître son appui. Or, ouvre mes yeux, tends une main secourable. Et moi, je n'ouvris point les yeux du misérable. Je lui rendais hommage étant félon pour lui. Un génois, le rebut du monde, race impure, tout souillé de forfaits, tout rempli d'impostures, comment n'êtes-vous pas au banc de l'univers? Avec le pire esprit de Romagne et de Rome, tel j'ai vu l'un de vous. Par ainsi de cet homme, l'âme est baignée au Styx pour ses œuvres pervers, et son corps semble en vie au-dessus des enfers.